Brusquement, elle s'interrompit dans son extase pâmée au sujet de la Norvège, car il était inutile de confesser à tous leur échec lamentable. Et elle s'écria « À propos, vous savez ce qui m'attendait à mon retour ? J'ai trouvé mon hôtel dévalisé. Oh, complètement ! Un saccage dont vous n'avez pas l'idée, et une saleté immonde ! Tout de suite, nous avons reconnu la signature. Nous avons pensé aux petits amis de Bergaz. » Guillaume, la veille, avait lu qu'une bande de jeunes anarchistes s'était introduite, en fracturant la baie d'un sous-sol, dans le petit hôtel de la princesse de Ars, laissé désert, sans un serviteur, sans un gardien. Les aimables bandits ne s'étaient pas contentés de tout déménager jusqu'aux gros meubles, mais ils avaient dû vivre là 2 jours et 2 nuits, buvant les vins de la cave, festoyant avec des provisions apportées du dehors, souillant les pièces, laissant des traces ignobles de leur passage. Et Rosemonde, quand elle était rentrée là-dedans, plus émerveillée que fâchée de l'aventure, s'était tout de suite souvenue de la soirée passée au cabinet des horreurs avec Bergaz et ses 2 tendresses, Rossi et Sans Faute, qui avaient su d'elle-même son départ pour la Norvège. Ceux-ci, en effet, venaient d'être arrêtés. Mais Bergaz était en fuite. Elle ne s'étonnait pas trop, avertie déjà, n'ignorant pas que, parmi le monde très mêlé qu'elle recevait, en passionnée d'étrangetés internationales, se trouvaient de terribles messieurs. Jean-Jean lui avait confié certaines histoires malpropres qu'on attribuait à Bergaz et à sa bande. Cette fois, il n'hésitait pas. Il racontait tout haut que Bergaz, après Raphanel, s'était vendu à la police et que le coup partait de celle-ci, désireuse de salir à jamais l'anarchie par ce vol retentissant accompli au milieu de telles ordures. Et la preuve, n'en était-elle pas dans ce fait que la police l'avait laissé fuir ? « J'ai cru, dit Guillaume, que les journaux exagéraient. En ce moment, pour aggraver le cas de ce malheureux Salvat, ils inventent tant d'abominations. »«
Oh non !» reprit gaiement Rosemonde. « Ils n'ont pu tout dire, c'était trop sale. J'en ai été quitte pour descendre à l'hôtel. J'y suis beaucoup mieux. Ça commençait à m'ennuyer d'être chez moi. N'importe, l'anarchie n'est guère propre. Je n'ose plus dire que j'en suis. »
Elle riait, et elle sauta brusquement à un autre caprice. Elle voulut que le maître lui parlât de ses derniers travaux, sans doute pour prouver qu'elle était capable de le comprendre. Mais l'histoire de Bergaz l'avait rendu soucieux. Il se renferma dans des généralités, en ne se montrant plus que d'une politesse assez froide. Pendant ce temps, Hyacinthe renouvelait connaissance avec François et Antoine, qu'il avait eus pour condisciples au lycée Condorcet. Il n'était venu avec la princesse qu'à contre-cœur, inquiet de la corvée, et il cédait uniquement à la sourde peur qu'il avait d'elle depuis qu'elle le battait. Cette petite maison d'un chimiste réprouvé l'emplissait de dédain. Il crut devoir exagérer encore sa supériorité devant d'anciens camarades qu'il retrouvait dans la basse ornière commune, au travail comme tout le monde. « Ah, c'est vrai !» dit-il à François, en train de prendre des notes dans un livre. « Tu es entré à l'école normale, tu prépares un examen, je crois ?»« Moi, que veux-tu ? L'idée d'un collier quelconque me fait horreur. Je deviens stupide dès qu'il s'agit d'un examen, d'un concours. L'infini est la seule route possible. Et puis, la science entre nous, quelle duperie ! Quel rétrécissement de l'horizon ! Autant vaut-il rester le petit enfant, dont les yeux s'ouvrent sur l'invisible. Il en sait davantage. » François, ironique parfois, se plut à lui donner raison. « Sans doute, sans doute. Mais il faut des dispositions naturelles pour rester le petit enfant. Moi, malheureusement, j'ai la misère d'être dévoré par le besoin de savoir. C'est déplorable. Je passe mes jours à me casser la tête sur des livres. Oh, je n'en saurai jamais beaucoup, c'est certain. Et voilà peut-être la raison pour laquelle je m'efforce d'en savoir toujours davantage. Accorde-moi que le travail est, comme la paresse, une façon de passer la vie. Ah, moins élégante sûrement, car tu dois professer qu'il est moins esthétique.
Mon esthétique, c'est cela même, reprit Hyacinthe. La beauté n'est jamais que dans l'inexprimé. Toute vie qui se réalise tombe à l'abjection.
Cependant, si simple qu'il fût sous l'énormité géniale de ses prétentions, il dut sentir la raillerie, et il se tourna vers Antoine, qui était resté assis devant le bois qu'il gravait, un portrait de Lise, lisant, toujours abandonné et repris toujours, dans son désir d'y mettre le réveil de l'enfant à l'intelligence, à la vie.
« Toi, tu fais de la gravure. Depuis que j'ai renoncé au vers, à un poème sur la fin de la femme, tellement les mots me semblaient grossiers, encombrants, salissants, des pavés pour des maçons, j'ai eu l'idée de me mettre aussi au dessin, à la gravure peut-être.
Mais où est-il le dessin qui dira le mystère, l'au-delà, le seul monde qui existe et qui importe, n'est-ce pas? Avec quel crayon l'obtenir? Sur quelle planche le rendre? Il faudrait quelque chose d'impalpable, qui n'existât pas, qui suggéra seulement l'essence des choses et des êtres.
Pourtant, ce n'est que par la matérialité de ses moyens, dit un peu brutalement Antoine, que l'art peut rendre ce que tu appelles l'essence des choses et des êtres, et ce qui n'est en somme que leur signification totale, celle du moins que nous leur prêtons.
Rendre la vie, ah, là est ma grande passion, et il n'y a pas d'autre mystère que celui de la vie, au fond des êtres, derrière les choses. Quand ma planche vit, je suis content, j'ai créé.
Une moue, d'Hyacinthe, dit son dégoût de la fécondité.
La belle affaire! Le premier goujat venu faisait un enfant. Ce qui devenait exquis et rare, c'était l'idée insexuée existant par elle-même.
Il voulut expliquer cela, s'embrouilla, se rejeta dans la certitude, rapportée de Norvège, que l'art et la littérature étaient finis en France, tués par la bassesse et par l'abus même de la production.
« C'est évident, » conclut gaiement François. « Ne rien faire, c'est avoir déjà du talent. »
Pierre et Marie regardaient, écoutaient, restaient gênés de l'étrangeté de cette invasion dans l'atelier si grave et si calme d'habitude. La petite princesse fut pourtant très aimable, s'approcha de la jeune fille, admira la merveilleuse finesse d'une broderie qu'elle terminait, et elle ne voulut point partir sans emporter un autographe de Guillaume sur un album qu'Hyacinthe dut aller chercher dans la voiture. Il lui obéissait avec un visible ennui, tous deux déjà là l'un de l'autre. Mais en attendant quelque autre caprice, elle le gardait, elle s'amusait encore à le terroriser. Et quand elle l'emmena, après avoir déclaré au maître que ce jour demeurerait pour elle une date mémorable, elle les fit tous sourire en disant « Ah, ces jeunes gens ont connu Hyacinthe au lycée !» N'est-ce pas que c'est un bon petit garçon, et qui serait même gentil s'il voulait bien être comme tout le monde? Le jour même, Jean-Zan et Bache vinrent passer la soirée chez Guillaume. Les réunions intimes de Neuilly continuaient à Montmartre une fois par semaine. Pierre, ces jours-là, ne s'en allait que très tard, et l'on causait sans fin dans l'atelier, ouvert sur le Paris nocturne, étincelant de gaz, dès que les deux femmes et les trois grands-fils étaient montés se coucher. Théophile Morin arriva vers 10 heures, retenu par des corrections de composition. Toute une lourde besogne pédagogique, sans nul intérêt, qui parfois lui prenait ses nuits.
« Mais c'est une folle !» s'écria Jean-Zan, dès que Guillaume leur eut conté la visite de la princesse. « Un instant, lorsque je me suis lié avec elle, j'avais espéré l'utiliser pour la cause. Elle paraissait si convaincue, si hardie. Ah oui, elle n'est que la plus détraquée des femmes, simplement en quête d'émotions nouvelles. Le sang aux joues, il sortait enfin de sa froideur accoutumée, du mystère dont il s'enveloppait. Sans doute, il avait souffert de sa rupture avec celle qu'il appelait autrefois la petite reine de l'anarchie, et dont la fortune, les relations si nombreuses et si mêlées, devaient lui avoir semblé des outils tout puissants de propagande et de victoire. Vous savez, reprit-il en se calmant, que son hôtel dévalisé et souillé est un coup de la police. On a voulu, à la veille du procès de Salva, achever de perdre l'anarchie dans l'idée des bourgeois. Guillaume devint attentif. Oui, elle m'a dit cela, mais je ne crois guère à cette histoire. Si Bergaz n'avait agi que sous l'influence dont vous parlez, on l'aurait arrêté avec les autres. Comme autrefois, on a, dans le même coup de filet, arrêté Raphanel et ceux qui l'avaient vendu. Et puis, j'ai un peu connu Bergaz. C'est un pillard. Sa voix s'était assombrie. Il eut un geste de grand chagrin. Certes, je comprends toutes les revendications, même toutes les légitimes représailles. Mais le vol cynique pour la jouissance, ah non, je ne puis m'y faire. La haute espérance d'une société juste et meilleure en est dégradée en moi. Ce vol de l'hôtel de Ars m'a désolé. Jean-Jean avait son énigmatique sourire, mince et coupant comme un couteau. Bah, affaire d'atavisme! Ce sont les siècles d'éducation et de croyance derrière vous qui vous protestent. Il faudra bien reprendre ce qu'on ne veut pas rendre. Ce qui me fâche, moi, c'est que Bergaz a choisi le moment pour se faire acheter. Un vol de comédie, un effet oratoire que se prépare le procureur qui demandera la tête de Salva. Il s'obstinait à son explication, dans sa haine de la police, peut-être aussi à la suite d'une brouille avec Bergaz qu'il avait fréquenté. Son existence de sans-patrie, promené au travers de l'Europe en un rêve sanglant, restait insondable. Et Guillaume, renonçant à discuter, se contenta de dire « Ce misérable Salva, tout l'accable, tout l'écrasera. Vous ne sauriez croire, mes amis, dans quelle colère croissante me jette son aventure. C'est un soulèvement de toutes mes idées de justice et de vérité que les événements de chaque jour aggravent, exaspère. Un fou, assurément, mais qui a tant d'excuses, qui n'est au fond qu'un martyr dévoyé. Et le voilà la victime désignée, chargée des crimes d'un peuple, payant pour nous tous. » Bâche et Morin hochaient la tête sans répondre. Eux deux professaient l'horreur de l'anarchie. Morin, oubliant que son premier maître, Proudhon, avait lancé le mot, presque la chose, ne se souvenait que de son dieu Auguste Comte pour s'enfermer avec lui dans le bel ordre hiérarchique des sciences, prêt à se résigner au bon tyran jusqu'au jour où le peuple, instruit et pacifié, serait digne du bonheur. Et, quant à Bâche, le vieil humanitaire mystique était en lui profondément blessé par la sécheresse individualiste de la théorie libertaire. Il haussait doucement les épaules, il disait que toute solution se trouvait dans Fourier, qui avait à jamais réalisé l'avenir en décrétant l'alliance du talent, du travail et du capital. Mais l'un et l'autre, pourtant, mécontents de la République bourgeoise, si lente aux réformes, trouvant que leurs idées étaient bafouées et que tout allait de mal en pis, consentaient à se fâcher sur la façon dont les partis adverses s'efforçaient d'utiliser Salva, pour se maintenir au pouvoir ou pour le conquérir. « Quand on songe, dit Bâche, que leur crise ministérielle dure depuis 3 semaines bientôt. Tous les appétits s'y montrent à nu. C'est un spectacle écœurant. Avez-vous lu ce matin dans les journaux que le président a dû prendre de nouveau le parti d'appeler Vignon à l'Élysée ?»«
Oh, les journaux !» murmura Morin de son air las.
Je ne les lis plus, à quoi bon? Ils sont si mal faits, et ils mentent tous. » La crise ministérielle, en effet, s'était éternisée. Très correctement, obéissant aux indications que lui fournissait la séance où était tombé le ministère Barroux, le président de la République avait mandé Vignon, le vainqueur, pour le charger de former le nouveau cabinet. Et il avait semblé que c'était une besogne aisée, réclamant au plus 2 ou 3 jours, car on citait depuis des mois les noms des amis que le jeune chef du parti radical amènerait avec lui au pouvoir. Mais des difficultés de toutes sortes avaient surgi. Vignon s'était débattu pendant 10 jours au milieu d'inextricables obstacles, si bien que De Gerlas, craignant de s'user pour plus tard, s'il s'obstinait, il avait dû prévenir le président qu'il renonçait à la tâche. Aussitôt, celui-ci avait fait venir d'autres députés, s'informant, questionnant, jusqu'à ce qu'il en eût trouvé un d'assez brave pour tenter l'expérience à son tour. Et les mêmes faits s'étaient produits. D'abord, le projet d'une liste qui semblait devoir devenir définitive en quelques heures, puis des hésitations, des tiraillements, une paralysie lente aboutissant à un échec final. On aurait dit que le sourd travail qui avait entravé Vignon venait de recommencer, mystérieux et puissant, comme si toute une bande d'invisibles complices s'employait à faire avorter les combinaisons dans un intérêt caché. C'était, de partout et de plus en plus invincible, 1000 empêchements qui se levaient. Jalousie, incompatibilité, défection, créés dans l'ombre par des mains expertes, grâce à l'emploi de toutes les pressions imaginables, les menaces, les promesses, les passions exaspérées et heurtées. Et il avait fallu que le président, fort embarrassé, mandât de nouveau Vignon, qui, cette fois, s'étant recueilli, ayant en poche sa liste presque complète, paraissait être certain de réussir dans les 48 heures. « Ce n'est pas fini, » reprit Bache, « et des gens bien informés prétendent que Vignon échouera comme la première fois. Voyez-vous, rien ne m'ôtera de l'idée que c'est la bande à Duvillard qui mène les choses. Au profit de quel monsieur? Ah, ça, je l'ignore. Mais soyez convaincus qu'il s'agit avant tout d'étouffer l'affaire des chemins de fer africains. Simon Ferrand n'était pas trop compromis. Je flairerai là un tour de sa façon. Avez-vous remarqué comme le Globe, qui du matin au soir a lâché Barroux, parle presque chaque jour de Montferrand avec une sympathie respectueuse? C'est un symptôme grave, car Fonsègue n'a pas l'habitude de ramasser si pieusement les vaincus. Enfin, que voulez-vous attendre de cette exécrable chambre? Il s'y trame sûrement quelque malpropreté. « Et ce grand niais de Meige, » dit Morin, « qui fait les affaires de tous les partis, excepté du sien, est-il assez dupe avec son idée qu'il lui suffira d'user un à un les cabinets pour aboutir à celui dont il sera le chef ?» Au nom de Meige, tous s'étaient récriés, mis d'accord par leur commune haine. Bache, qui pourtant pensait comme l'apôtre du collectivisme d'État sur bien des points, jugeait chacun de ses discours, chacun de ses actes, avec une sévérité impitoyable. Quant à Jean-Zan, il le traitait simplement en bourgeois réactionnaire qu'il faudrait balayer un des premiers. Et c'était là leur passion à tous. Ils se montraient justes parfois pour des hommes, des adversaires irréconciliables, qui n'avaient aucune de leurs idées. Tandis que le grand crime sans pardon possible était de penser à peu près comme eux, sans être absolument d'accord sur toute chose. La discussion continua, mêlant et opposant les systèmes, sautant de la politique à la presse, s'égarant, se passionnant, à propos des dénonciations de Sanier, dont le journal, chaque matin, roulait son flot boueux dans un débordement d'égouts. Et Guillaume, qui s'était mis, selon son habitude, à marcher de long en large, sortit de sa dolente rêverie pour s'écrier « Ah, ce Sanier, quelle besogne immonde! Il n'y aura bientôt plus ni une chose ni un être sur lequel il n'aura pas vomi. On le croit avec soi et l'on est éclaboussé. N'a-t-il pas raconté hier que lorsqu'on a arrêté Salva au bois de Boulogne, on avait trouvé sur lui des fausses clés et des porte-monnaies volées à des promeneurs. Salva, toujours, Salva, le sujet inépuisable d'articles, le nom imprimé qui suffit à tripler la vente. Salva, l'heureuse diversion pour les vendus des chemins de fer africains. Salva, le champ de bataille où se défont et se font les ministères. Tous l'exploitent et tous l'égorgent. » Ce fut cette nuit-là le cri de révolte et de pitié sur lequel les amis se séparèrent. Pierre, assis contre le vitrage, ouvert sur l'immensité brasillante de Paris, avait écouté pendant des heures, sans desserrer les lèvres. Il était en proie à son doute, à sa lutte intérieure, et aucune solution, aucun apaisement ne lui était encore apporté par tant d'opinions contradictoires, qui ne tombait d'accord que pour condamner le vieux monde à disparaître, sans pouvoir rebâtir d'un même effort fraternel le monde futur de justice et de vérité. Et le Paris nocturne, semé d'étoiles, étincelant comme un ciel d'été, restait lui aussi la grande énigme, le chaos noir, la cendre obscure, toute pétillante d'étincelles, dont la prochaine aurore devait sortir. Quel avenir s'enfantait là pour la terre entière! Quelle parole décisive de salut et de bonheur allait, avec le jour, s'envoler aux quatre points de l'horizon! Comme Pierre enfin partait à son tour, Guillaume lui posa les deux mains sur les épaules, le regarda longuement, attendri profondément dans sa colère. « Ah, mon pauvre petit, tu souffres toi aussi! Je le vois bien depuis quelques jours. Mais tu es le maître de ta souffrance, car la lutte n'est qu'en toi. Tu peux te vaincre, tandis qu'on ne peut vaincre le monde lorsque c'est de lui qu'on souffre, et de ses méchancetés, et de ses injustices. Va, va, sois brave, agis selon la raison, dans les larmes, et tu seras calmé. » Cette nuit-là, lorsque Pierre se retrouva seul dans sa maison de Neuilly, où ne revenaient plus que les ombres de son père et de sa mère, un suprême combat le tint longtemps éveillé. Jamais encore il n'avait senti à ce point le dégoût de son mensonge, cette prêtrise qui était devenue pour lui un vain geste, cette soutane qu'il s'était résigné à porter comme un déguisement. Peut-être tout ce qu'il venait de voir et d'entendre chez son frère, la misère sociale des uns, l'inutile et folle agitation des autres, le besoin d'une humanité meilleure, s'obstinant au milieu des contradictions et des défaillances, lui avait-il fait sentir plus profondément la nécessité d'une vie loyale, vécue normalement au plein jour? Maintenant, il ne pouvait songer au long rêve qu'il avait fait, cette vie farouche et solitaire du saint prêtre qu'il n'était pas, sans être pris d'un frisson de honte, la conscience trouble, agitée du malaise d'avoir si longtemps menti. Et c'était chose décidée. Il ne mentirait pas davantage, même par charité, pour donner aux autres la divine illusion. Mais quel arrachement que d'ôter cette soutane qu'il croyait sentir collée à sa peau! Et quelle détresse à se dire que, s'il l'arrachait quand même, il resterait décharné, blessé, infirme, sans jamais pouvoir redevenir pareil aux autres hommes. Pendant cette nuit terrible, ce fut là de nouveau son débat, sa torture. La vie voudrait-elle de lui encore? N'avait-il pas été marqué pour rester éternellement à part? Il croyait sentir son serment dans sa chair tel qu'un fer rouge. Se vêtir comme les hommes, à quoi bon, s'il ne devait plus être un homme? Il avait vécu jusque-là si frissonnant, si malhabile, si perdu dans le renoncement et dans le songe. Ne plus pouvoir, ne plus pouvoir. Cela le hantait d'une terreur dont il craignait d'être paralysé. Et quand enfin il se décida, ce fut dans l'angoisse, simplement par loyauté. Le lendemain, lorsque Pierre revint à Montmartre, il était en pantalon et en veston de couleur sombre. Mère Grand et les trois fils n'eurent ni un cri de surprise, ni même un regard qui pût le gêner. Cela n'était-il pas naturel? Ils l'accueillirent de leur air tranquille de tous les jours, peut-être même avec plus d'affection, pour lui éviter le premier embarras. Mais Guillaume, lui, se permit un bon sourire. Il voyait là son œuvre. La guérison venait, comme il l'avait espéré, par lui, chez lui, dans le plein soleil, dans la vie que le grand vitrage laissait entrer à large flot. Marie, elle aussi, avait levé les yeux, regardé Pierre. Elle ignorait tout ce que son mot si logique. « Pourquoi ne l'ôtez-vous pas ?» lui avait fait souffrir. Et elle trouva simplement plus commode pour le travail qu'il eût ôté sa soutane. « Pierre, venez donc voir. Je m'amusais justement, lorsque vous êtes arrivé, à suivre là-bas, sur Paris, ces fumées que le vent couche vers l'est. On dirait des navires, toute une escadre innombrable que le soleil empourpre. Oui, oui, des vaisseaux d'or, des milliers de vaisseaux d'or qui partent de l'océan de Paris pour aller instruire et pacifier la terre.